Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte satirique du média suivant, la presse. Au programme, ce n'est pas de la science-fiction. Mitonner l'entraide et le lent réveil des arts vivants. Bonne écoute.
Ce n'est pas de la science-fiction. Un texte de Marc Cassivi, paru le 21 avril 2023 dans la presse. Le film a été décrit il y a 20 ans comme une œuvre de science-fiction. Dans Simone, Al Pacino incarne Victor, un cinéaste sur le déclin qui perd en plein tournage l'actrice principale de son film et le financement de ses producteurs. C'est alors qu'un crack de l'informatique lui propose un logiciel nommé Simulation One, permettant de créer de manière virtuelle l'actrice idéale. Et Dieu, celui de l'intelligence artificielle, créa Simone à partir d'images de synthèse. Elle correspond à tout ce dont rêve Victor. Elle est jolie, docile et lui voue un culte. Le subterfuge n'est pas découvert. Le public n'y voit que du feu. Le film est un succès. Bientôt, Simone devient la plus grande des stars hollywoodiennes, faisant de l'ombre à son mentor, envieux de sa soudaine popularité. Victor finit par dévoiler le poteau rose, mais personne ne veut le croire. J'ai repensé à cette satire de 2002 sur les vedettes préfabriquées alors que l'intelligence artificielle, IA, est sur toutes les lèvres. Simone n'est pas un grand film, mais on ne peut nier que le regard d'Andrew Niccol, le cinéaste de Gattaca et le scénariste de Truman Show, était prescient. Pendant que l'Assemblée nationale s'inquiète, avec raison, de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie du doublage au Québec, c'est l'ensemble du cinéma mondial qui redoute les avancées technologiques de l'IA sur ses corps de métier. Les voix de Tom Cruise ou de Nicole Kidman peuvent désormais être traduites dans une multitude de langues, ce qui menace de rendre le doublage obsolète. Ce n'est que la pointe de l'iceberg des révolutions technologiques qui bouleverseront les façons de faire du cinéma dans les prochaines années. James Earl Jones, qui prête sa voix au personnage de Darth Vader, a accepté que celle-ci puisse être utilisée après sa mort dans des productions de Star Wars, grâce à l'intelligence artificielle. En 2016, dans le film Rogue One, Peter Cushing reprenait le rôle qu'il tenait dans le premier film de la série des Star Wars en 1977, même s'il est mort en 1994. On connaît déjà les effets spéciaux de rajeunissement numérique qui se raffinent sans cesse. Dans les nouvelles aventures d'Indiana Jones, qui seront présentées au Festival de Cannes le mois prochain, on a rajeuni le visage d'Harrison Ford de 40 ans. Dans la série des films Avatar, des comédiens en chair et en os côtoient des personnages créés notamment grâce à la capture de mouvement. Les Navi sont des géants bleus. On se posera peut-être davantage de questions éthiques lorsqu'il sera pratiquement impossible pour l'œil non averti de distinguer les vrais acteurs des faux. Même un jury professionnel n'est pas parvenu à identifier une image générée par l'IA cette semaine aux Sony World Photography Awards. Il a fallu qu'un lauréat révèle lui-même son stratagème. Qui sait ce qui nous attend dans 20 ans? Peut-être qu'on n'aura même plus besoin d'acteurs dans les films. On pourra imaginer un antépisode du déclin de l'Empire américain, mettant en vedette Rémi Girard, Dominique Michel, Yves Jacques, Dorothée Berryman, Pierre Curzi, Louise Portal et le reste de la distribution du film de Denis Arcand, dans leur vingtaine ou jeune trentaine, sans qu'aucun des acteurs ait eu à tourner la moindre scène ou donner la moindre réplique. À court terme, les scénaristes ont davantage que les acteurs des raisons de craindre l'impact de l'IA sur leur métier. Si ChatGPT peut déjà rédiger des travaux universitaires mieux que bien des étudiants, on peut facilement imaginer qu'un logiciel plus performant puisse adapter efficacement un roman pour le cinéma. Scénarisé « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah, dans le style de Philippe Falardeau, par exemple, ou se substituer à un script éditeur et dynamiser les dialogues d'un scénario à la manière de Xavier Dolan. Si vous croyez que c'est de la science-fiction, détrompez-vous. Le syndicat des scénaristes hollywoodiens, la Writers Guild of America, WGA, a accepté le mois dernier que l'intelligence artificielle puisse être utilisée dans l'écriture de scénarios à condition que les scénaristes soient toujours rémunérés et crédités au générique. Selon la proposition de la WGA, un dirigeant de studio pourrait confier un scénario écrit par ChatGPT à un scénariste qui serait chargé de le réécrire ou le polir, rapporte le magazine Variety, sans perdre pour autant son statut d'auteur principal sur le projet. On n'arrête pas le progrès. Déjà que bien des scénarios hollywoodiens ressemblent à de la peinture à numéros ou à des boîtes repas de prêt-à-manger. Constamment, la même recette. On mélange tel et tel ingrédient, on laisse mariner l'amoureux éploré, on tire sur la ficelle de la culpabilité, on provoque une rencontre improbable, 5 minutes à broil, et le tour est joué. Je m'amuse, aux grandes dames de mon entourage, à deviner, avec beaucoup trop de facilité, les rebondissements et les répliques des films et des séries que l'on regarde à la maison. Des scénarios qui recyclent à l'envi des formules éculées, comme s'ils étaient écrits à la chaîne par des robots. Pas étonnant dans les circonstances que certains envisagent de faire l'économie de scénaristes. D'autant que, grâce à l'IA, Hollywood n'aura bientôt plus besoin de soumettre ses films à un public test afin de savoir si cette fin ouverte ou ce revirement inattendu est susceptible de lui plaire. Un simple algorithme se chargera d'évaluer les préférences des auditoires potentiels. Business is business. Et si l'IA n'était pas qu'une menace, et si, plutôt que de faire sombrer le cinéma dans le consensuel, ce qui est déjà la règle générale à Hollywood, l'intelligence artificielle n'encourageait pas, au contraire, l'émergence d'un cinéma encore plus original, qu'aucune banque de données n'aurait pu imaginer. Un cinéma unique, qui étonne et qui détonne, prend des risques et fait fi des formules toutes faites. Ça, c'est peut-être de la science-fiction. C'était « Ce n'est pas de la science-fiction », un texte de Marc Cassivi, paru le 21 avril 2023 dans La Presse.
Mitonner l'entraide. Un texte de Véronique Larocque, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Alors que les hausses successives du prix du panier d'épicerie pèsent lourd sur le budget des Québécois, des gens s'unissent aux fourneaux un peu partout en province pour économiser sur le coût des repas. À la veille de la Journée nationale des cuisines collectives, La Presse a rencontré les membres d'un de ces groupes qui, à leur façon, contribuent à freiner l'insécurité alimentaire. Bienvenue dans leur cuisine. Le bruit des couteaux qui tranchent oignons et gousses d'ail résonne dans la pièce des cuisines collectives du Grand Plateau. Les quatre participants installés autour de la table sont très concentrés à leurs tâches respectives. Que préparent-ils en ce vendredi matin? De la sauce à spaghetti et de la soupe à l'orge et aux légumineuses, répond avec entrain Nicole Beaulieu. La femme de 69 ans participe depuis 6 mois à ce groupe de cuisine collective qui se réunit mensuellement pour préparer 2 recettes. Après chaque matinée de popote, elle repart à la maison avec 10 de plats qu'elle peut réchauffer dans les semaines suivantes. Le tout pour la modique somme de 1,50 à 2,50 $ par portion. Cuisiner en grande quantité permet certes de réaliser des économies. Mais si les coûts sont si faibles, c'est aussi parce que certains ingrédients, comme le sel, le sucre, la farine et les épices, sont fournis par les cuisines collectives du Grand Plateau en échange d'une petite contribution financière. Selon Statistique Canada, les prix des aliments ont connu, en 2022, leur plus forte hausse en 40 ans, soit près de 10 %. Dans ce contexte, environ 40 % des organismes qui proposent des groupes de cuisine collective ont vu leur nombre de participants augmenter, rapporte le Regroupement des cuisines collectives du Québec. À un point tel que certains ne peuvent pas répondre à la demande en raison d'un manque de ressources et ont dû créer des listes d'attente. Aux cuisines collectives du Grand Plateau, on a aussi remarqué un engouement grandissant. Quand il y a eu une annonce au courant de l'été que le coût du panier d'épicerie allait augmenter de 5 à 7 %, on a reçu beaucoup d'appels, indique Pénélope Stuart, responsable de la vie associative et des communications pour l'organisme qui fête cette année ses 30 ans. Mais l'aspect financier, ce n'est pas tout, s'empresse d'ajouter la directrice générale, Carole Derry. On le comprend bien lorsqu'on voit le groupe s'activer autour des cuisinières commerciales. Un membre ajoute les tomates à la sauce à spaghetti, un autre verse le bouillon pour la soupe. « Est-ce qu'on met toute la pâte de tomate? » demande Nicole Beaulieu. « On devrait. La pâte de tomate, c'est important pour épaissir. » lui répond Pierre Gendron, un autre participant. Tranquillement, des liens se tissent entre ces 4 aînés qui avouent ressentir parfois une certaine solitude. « Je me suis dit, ça va me sortir un peu de mon confinement », répond d'ailleurs l'homme de 65 ans lorsqu'on lui demande ce qui lui a donné envie de participer à un groupe de cuisine collective. « Je suis seul chez moi. Je ne fais rien. » Au lieu de rester à regarder la télévision, je me suis dit que j'aime mieux venir ici et apprendre à cuisiner, indique de son côté Franz Lemaire. Car bien qu'il ne s'agisse pas d'un cours de cuisine, l'activité est animée par Louise Gamache, qui est présente pour guider les participants et leur offrir des conseils. Aujourd'hui, elle leur a réservé une surprise. Alors que la sauce et la soupe mijotent, ils prépareront aussi un dessert, des muffins à l'avoine et aux canneberges. On n'est pas une banque alimentaire. On n'est pas un centre de dépannage. On ne distribue pas de panier. Nous, on travaille en éducation alimentaire. L'adage dit « Vaut mieux montrer à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson ». C'est un peu ça notre philosophie, explique la directrice générale, Carole Derry, en spécifiant que l'organisme accueille les gens, peu importe leur revenu. Aux cuisines collectives du Grand Plateau, cet apprentissage débute très jeune, puisque certains groupes sont composés d'enfants de 4e et de 5e année du primaire. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une éducation sur la saine alimentation. Pourtant, bien manger, ça a des impacts sur toute la vie, note sa collègue Pénélope Stuart. Nicole Beaulieu peut en témoigner. La femme qui mangeait très rarement des plats végétariens a découvert ce type de cuisine Et c'est bien fait grâce à l'organisme. Ça nous fait goûter à de nouveaux mets, se réjouit-elle. La matinée de cuisine tire à sa fin. Les participants s'assoient ensemble pour planifier leur rencontre du mois d'avril. Que concocteront-ils? Colette Samuel propose un mets qui lui rappelle son enfance. Des galettes de morue. Ses comparses acceptent sa suggestion. Après avoir trouvé une recette en ligne, chacun choisit les ingrédients qu'il apportera. « À la prochaine !» lance-t-il en se quittant, leur petit plat sous le bras. Trois conseils pour se nourrir à moindre coût. Numéro 1. Allez consulter vos organismes communautaires, suggère Pénélope Stuart des cuisines collectives du Grand Pateau. Il existe de nombreuses initiatives, particulièrement pour les gens à faible revenu. Il y a des paniers de légumes en partie subventionnés qui sont offerts sur le plateau, donne en exemple sa collègue Carole Derry en mentionnant les services des ateliers d'éducation populaire du plateau. Numéro 2. Initiez-vous à la cuisine zéro gaspillage. Il y a plein de choses qu'on ne consomme qu'à moitié. Par exemple, la partie verte des poireaux. Au lieu de la mettre au compost, on peut l'utiliser pour faire des soupes, explique Pénélope Stuart. Des villes et des organismes présentent parfois des conférences gratuites sur le sujet. On peut aussi consulter le site « Sauve ta bouffe » qui recèle une foule de conseils et de recettes zéro gaspille. Numéro 3. Participer à une cuisine collective proposent également en chœur Pénélope Stuart et Carole Derry. En plus de préparer des plats à moindre coût, cette activité permet de nouer des amitiés, font-elles valoir. La Journée nationale des cuisines collectives est l'occasion de découvrir celle près de chez vous, puisque de nombreuses activités sont organisées dans la province ce dimanche. Aux cuisines collectives du Grand Plateau, par exemple, il y aura préparation et mise en conserve de carottes marinées. 1065 $ et 60 sous, somme qu'une famille canadienne de 4 personnes devra dépenser de plus en 2023 pour se nourrir. Source, rapport annuel sur les prix alimentaires, Université Dalhousie. 1082, nombre de groupes de cuisine collective au Québec en mars 2022. 7169, nombre de personnes participant à une cuisine collective dans la province en mars 2022. Source, Regroupement des cuisines collectives du Québec. C'était « Mitonner l'entraide », un texte de Véronique Larocque, paru le 25 mars 2023 dans La Presse.
Le lent réveil des arts vivants. Un texte de Stéphanie Morin, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Trop souvent, les portes des théâtres sont fermées aux personnes avec des limitations auditives ou visuelles. Les services offerts pour favoriser leur accès à l'art vivant sont rarissimes, mais la donne est en train de changer. Plusieurs initiatives commencent à faire leur apparition dans les institutions montréalaises, en particulier au Théâtre du Rideau Vert, qui s'est positionné comme chef de file dans le dossier de l'accessibilité universelle. Depuis septembre 2022, le Théâtre de la rue Saint-Denis offre des services adaptés aux besoins des personnes non-voyantes, sourdes ou malentendantes. Théâtre aux descriptions en direct, traduction en langue des signes du Québec, LSQ, et surtitrage en français codé, une technologie que les amateurs d'opéra connaissent déjà. Pour chacun de ces services précis, une représentation par pièce présentée est offerte cette saison. Erika Malot, coordonnatrice du développement artistique et responsable du projet d'accessibilité universelle au Rideau Vert, explique. Le Québec était en retard au chapitre de l'inclusion en culture, notamment par rapport aux États-Unis et à l'Europe, en particulier par rapport au Royaume-Uni. À Montréal, le milieu anglophone est aussi en avance sur le nôtre. Or, avec la pandémie, on a assisté à un développement de nouvelles technologies et on a davantage pris conscience des publics qui ne viennent pas au théâtre. On a réalisé qu'il y avait des adaptations possibles. On estime que 30 % de la population canadienne vit avec une limitation fonctionnelle. Au Québec, seulement 4 % de la population va au théâtre. On se prive de beaucoup de monde en n'ouvrant pas davantage nos salles. C'est le moment pour la culture de se réveiller, selon Erika Malot, coordonnatrice du Théâtre du Rideau Vert. Erika Malot a aussi mis sur pied une communauté de pratique qui rassemble plusieurs théâtres de Montréal et de Québec, des organismes de soutien et des personnes qui doivent composer avec des limitations. C'est un lieu d'échange pour mettre en commun nos idées, nos solutions. Il y a quelque chose qui se passe, l'initiative commence à faire des petits. Dans la foulée de cette communauté de pratique, le Centre du théâtre d'aujourd'hui, CTDA, a décidé d'offrir le 18 avril dernier une représentation avec surtitres en français codé de la pièce « Les filles du Saint-Laurent ». Une représentation avec audio-description de Clandestine a aussi été présentée en février. L'an prochain, cette offre va augmenter, promet Marion Guillaume, coordonnatrice aux communications et à la médiation au CTDA. 4 spectacles surtitrés sont prévus au programme, ainsi qu'une représentation avec audio-description. On est au tout début du projet, mais plus on en fera, plus ça se saura, plus l'offre sera récurrente, estime Marion Guillaume. On aimerait aussi bâtir un calendrier avec les autres théâtres pour proposer une offre diversifiée qui soit étalée tout au long de la saison. Des chorégraphies mises en mots. Le milieu de la danse, aussi, commence à se tourner vers cette clientèle à besoins particuliers. Depuis octobre 2021, Danse Cité, compagnie montréalaise vouée à la production ainsi qu'à la diffusion de la danse et de la création contemporaine, offre un service d'audio-description des œuvres chorégraphiées. 9 spectacles ont ainsi été décrits en direct, minute par minute. Le 10e sera « Encantado » de la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez, présenté dans le cadre du Festival Transamérique. Comment peut-on décrire en mots des œuvres dansées à des personnes non-voyantes pour qui des mots comme « arabesque » ne signifient rien? L'écriture de l'audiodescription est adaptée, explique Maude Mazot, Rotan-Bluller, directrice du développement et des communications chez Danse Cité. C'est un entre-deux entre l'imaginaire du spectateur et l'esthétique particulière de chaque chorégraphe. On a un bassin de spectateurs fidèles d'environ 50 personnes. Lors des représentations avec audiodescription, on offre aussi un accompagnement humain. Un guide pour chaque personne non-voyante. L'accompagnateur peut assister au spectacle gratuitement et les billets pour les personnes avec des limitations visuelles sont à un tarif très préférentiel, soit 20 $. On sait que plusieurs d'entre elles vivent dans une situation de grande précarité. On veut que l'offre soit adaptée sous toutes les facettes possibles. Les échos sont extrêmement positifs. Les enjeux étaient énormes. Briser l'isolement et donner accès à la culture à un plus grand nombre, dit Maude Mazot Rotan-Bluller, de Danse Cité. Et qu'en est-il du milieu du cirque? Danse Cité espère étendre son service aux arts circassiens dès l'an prochain. Un long travail en amont. Ajouter des services comme la traduction en langue des signes québécoise, SLQ, a un prix. et il est élevé, notamment parce que les interprètes en langue des signes doivent travailler une trentaine d'heures en amont de la représentation. De plus, au rideau vert, chaque interprète LSQ porte les répliques d'un ou de deux personnages, à condition que ces deux-là ne soient pas sur scène en même temps. Pour la pièce « Le fils », ils étaient cinq à signer le texte de Florian Zeller. Les interprètes LSQ doivent s'approprier leurs personnages, adapter leur tic, traduire les émotions qui sont perceptibles dans la voix, indique Erika Malo. C'est tout leur corps qui bouge, du haut de la tête à la taille. Le visage est très actif. Pour bien traduire la colère de l'un ou la tristesse de l'autre, les interprètes vont répéter avec les acteurs pour se familiariser avec le style et la rythmie de chacun. Tout cela demande du temps et de l'argent. Le financement est vraiment le nerf de la guerre pour la pérennité de tous ces projets, indique Maud Mazot-Rotenbuller. À Danse Cité, le financement est assuré pour la saison prochaine, mais il faut penser à l'avenir. C'était « Le lent réveil des arts vivants », un texte de Stéphanie Morin, paru le 22 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.